CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Attends-toi aux surprises du Seigneur ». Le Seigneur a des surprises pour vous, des choses qu'il veut faire dans votre vie qui vont vous surprendre énormément. Oui. Et nous avons aujourd'hui Frank et Nadine avec nous.
Hello Yveline.
Alors, vous tenez de nous voir un peu?
Non, non, moi je me lasse jamais de vous voir. Wow. Mais peut-être vous, vous vous lassez.
jamais.
Non.
Parce que moi, je suis toujours là. Et wow. Ici, la chaise change de propriétaire régulièrement quand même. Ouais. Particulièrement en ce moment. Quand
mais on est content d'être là.
J'espère. En tout cas, on va être ensemble pour un petit bout. Et on a une rubrique « C'est mon histoire » aujourd'hui. Mmh. C'est Lisa qui est venue nous raconter comment elle a connu le Seigneur. Elle était athée, grandit dans une famille athée et vraiment s'affirmait athée. Et vous allez voir comment le Seigneur a transformé sa vie alors qu'elle avait même des pensées très, très sombres. Vous découvrirez ça tout à l'heure dans l'émission. En attendant, Nadine, on va voir comment le Seigneur peut nous surprendre dans notre vie en faisant des switches extraordinaires. Wow. Et on en parle dans la pensée du jour.
Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager en te disant « Dieu peut faire prendre à ta vie un tournant que tu n'imaginais pas » et je dis « Amen ». Oui, Dieu est celui qui nous amène de gloire en gloire, de victoire en victoire et je veux vraiment déclarer ça dans ta vie. Des fois, lorsqu'on vit des choses, on vit des échecs peut-être, des fois on est coincé, on a l'impression qu'on tourne en rond, on vit des échecs peut-être dans notre vie professionnelle, dans nos relations, au travail, avec nos enfants, peu importe et on se dit « Mais comment est-ce que ma vie va changer ? Est-ce que ma vie peut vraiment se relever. Est-ce que je peux me relever de cette situation? Et j'aimerais te dire oui, parce que Dieu est celui qui change le mal en bien. Et je veux vraiment t'inviter à t'attendre aux surprises du Seigneur, à être dans l'expectative que Dieu peut changer les choses. Dieu peut tourner cette situation. Dieu peut m'amener où est-ce que sa parole me dit qu'il m'amène. Aujourd'hui n'est pas la fin. Dieu change toutes choses. Et je dis ça pourquoi? Parce que je m'inspire d'une déclaration que David a faite dans 2 Samuel au chapitre 22 au verset 34. Il dit... Il parle de Dieu, il fait cette déclaration en fait après qu'il ait remporté la victoire sur plusieurs combats et il dit cette chose, il dit « Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, il me fait tenir debout sur des hauteurs. » Et c'est tellement, ça m'avait vraiment béni quand j'ai pensé à ce verset alors que je préparais cette pensée parce que je me dis « David a traversé tellement de choses » mais il dit « Ah, le Seigneur est celui qui m'amène maintenant dans des hauteurs. » J'étais dans des grottes avec des brigands, j'étais en train de fuir Saül, j'étais vraiment dans des problèmes mais regarde où est-ce que Dieu m'amène et je veux vraiment croire que c'est la même chose qui va arriver dans ta vie. Alors, je t'invite à vraiment faire ces 3 déclarations et je prie que ces déclarations t'encouragent. La première, c'est d'arrêter de regarder à ton passé parce qu'il ne détermine pas ton avenir. David était laissé pour compte dans les champs de Bethléem, mais quand bien même il est arrivé devant Saül après avoir remporté la victoire devant Goliath, d'autres problèmes l'attendaient, d'autres difficultés l'attendaient. Mais voyez comment Dieu a changé les choses. J'aimerais te dire que c'est la même chose pour ta vie. Des fois, on passe un plateau, on arrive à un nouveau plateau, on se dit... Ici, c'est le plateau du calme et tout d'un coup, on a encore des difficultés. Est-ce que c'est le temps de baisser les bras? Non, c'est le temps de croire que Dieu peut faire les choses différemment. La deuxième chose, c'est que ton environnement ne détermine pas ton avenir non plus. J'ai dit que David était avec 400 brigands dans des grottes. Il était en fuite permanente devant Saül qui en voulait en sa vie. Le trône d'Israël semblait bien loin alors qu'il avait reçu l'huile d'onction royale. Mais Dieu a pu faire quelque chose dans sa vie. Et vraiment, de la même manière pour toi, les circonstances actuelles ne sont pas une finalité. Si ton environnement te dit que ça ne va pas marcher, ce n'est pas une finalité. Tu dois vraiment te confier en Dieu en te disant, je m'attends à une surprise du Seigneur. Le Seigneur peut changer les choses. Et la dernière chose, et j'avais vraiment à cœur de partager cela, c'est que les paroles rabaissantes des gens qui t'entourent ne déterminent pas non plus ton avenir. On sait David, on sait qu'est-ce qu'il a eu comme combat par rapport à ça. Mais des fois, je pense qu'il y a des gens qui ont reçu des paroles de limitation, que ce soit de ton environnement, que ce soit d'un supérieur hiérarchique, d'une personne même en autorité sur ta vie, et cette parole est venue comme une vérité s'installa en toi. Mais vraiment, je prie que cette parole soit délogée. Les paroles de limitation de qui sont là pour te rabaisser ou t'humilier, elles sont nulles et sans effet. La seule parole qui doit compter, la seule parole qui produit un fruit dans ta vie, c'est la parole qui vient de Dieu. Et cette parole, c'est une parole de bénédiction, c'est une parole qui veut te faire du bien, qui veut te donner un avenir et de l'espérance. Et vraiment, je t'encourage à réfléchir, à te dire que ma vie n'est pas finie, à t'attendre. Vraiment d'être dans une position d'attente d'une surprise de Dieu, d'attente, d'être dans l'expectative de l'intervention divine pour ta vie. Parce que Dieu n'a pas fini de faire les choses dans ta vie. Il peut faire prendre à ta vie un tournant que tu n'imaginais pas.
Amen, amen. Quand le Seigneur se lève dans nos situations, tout est bouleversé, ouais. Tout est transformé. Parfois d'une seconde à l'autre, parfois d'une semaine à l'autre, ça dépend. Mais on voit vraiment ce switch, comme je parlais au début, je sais pas comment le dire différemment, ce revers.
Ouais.
Tout à coup, il y a un revirement, c'est ça, ce changement qui s'opère. Et on est spectateur, en fait, de ce que Dieu vient de faire. On était dans une situation qui semblait désespérée, face à un mur, et tout à coup, hop, Dieu se lève dans la situation, alors qu'on prie, alors qu'on cherche sa face, alors qu'on se confie en lui. Il opère cette transformation dans notre situation, au point où on regarde en arrière, et c'est comme un lointain souvenir, finalement, ce qu'on a vécu, voilà. De se dire, est-ce que c'était vraiment ma vie, ça? Bien sûr, c'est le cas pour la nouvelle naissance, mais c'est le cas pour toutes sortes de situations. Comme, c'était moi, ça? Comment j'ai tenu bon dans cette situation? Bah, Dieu m'a fait grâce. Oui, sa grâce était disponible. Oui. Et notre verset du jour nous montre l'étonnement qu'on peut vivre avec le Seigneur. Jean 7 au verset 21 nous dit, Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Quand on parle de surprise, c'est parce que c'est quelque chose qui nous surprend. Mm-hmm. On s'attend même pas à ce que Dieu puisse faire. Il fait au-delà, en fait, de ce qu'on peut imaginer et penser. Il nous surprend et on en est tous étonnés de voir ce que Dieu a accompli.
Oui, quand tu parlais, ça me faisait penser à ce verset dans Psaume qui dit, lorsque Dieu ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve.
Ouais.
Et c'est vraiment ça, en fait. J'avais vraiment la pensée, alors qu'on va même partager le témoignage de Lisa, que vraiment, des fois, on peut être dans une situation de vie où est-ce que c'est compliqué. Et comme tu dis, l'autre côté a l'air tellement loin, mais comment je vais y arriver? Mais comme dans un rêve, tu vas te retourner, tu dis, ah tiens, j'avais vraiment vécu toutes ces choses-là, j'avais vraiment eu ces échecs-là. Regarde où Dieu m'a amené, que ce soit dans une guérison, mais même un déblocage, même un changement aussi, même de mentalité, de pensée, d'émotion. Et c'est vraiment important lorsqu'on est coincé. On parlait d'être coincé, on parle d'être dans l'expectative d'attendre une intervention de Dieu, d'avoir vraiment deux attitudes. Et la première, c'est d'espérer. Espérer en l'Éternel. J'aime ce verset, le psaume 27 au verset 14 qui dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Et c'est vraiment espérer, c'est s'attendre à Dieu. C'est se confier en lui, c'est garder les yeux fixés sur lui. Parce que vraiment, des fois, les circonstances vont nous amener à regarder nos circonstances. Mais j'espère en Dieu. Je sais qu'il peut changer les choses. Et si je suis dans un point de chômage, ou peut-être j'ai perdu ma maison, peu importe la circonstance, ou mes circonstances, mes émotions veulent me dire, Nadine, toi, ça s'arrête ici. Non, j'espère en Dieu. Et vraiment, lorsqu'on se confie en Dieu, on n'est jamais déçu.
L'espérance, c'est un ingrédient de la foi. La parole dit, or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, je veux même encourager les gens à aller au-delà de l'espérance, mais d'être dans une atmosphère de foi. C'est-à-dire que j'espère à ça, mais au-delà de ça, Dieu va le faire.
Amen.
Tu vois, c'est pas pareil. Beaucoup de gens dans les hôpitaux ou dans des situations compliquées, j'espère que... Mais là, Dieu, tu l'as dit, et donc je m'attends à ce que ça se passe. Et en fait, on va être surpris quand la chose va se manifester. Malgré nous, notre foi agit, et là, la chose arrive, on est surpris. Mais ça a marché!
Et au-delà de ce qu'on pense.
C'est extraordinaire. Et Dieu aime tellement surprendre les gens. C'est pour ça ce verset-là, c'est vrai. Et quand Jésus allait dans les lieux, les gens ne comprenaient pas. Il surprenait les gens. Par sa bonté, par son amour, par tout ça. Mais là, on doit rentrer dans cette atmosphère de Dieu a des surprises pour moi, j'espère en lui, mais je le sais qu'il fera.
Ça change. Et c'est drôle quand tu parles même de la foi, parce que je dis, il y a deux choses, c'est espérer, et le verset nous parle d'espérer, de se fortifier et que notre cœur s'affermisse. Donc ça veut dire notre cœur, c'est nos pensées. Nos pensées doivent s'affermir, nos pensées s'affermissent par la méditation de la parole de Dieu. Notre esprit doit s'affermir. Des fois, tu as une parole. Moi, je sais que des fois, il y a des moments où tu te dis, oh, ça bouge beaucoup là, qu'est-ce qui va se passer? Et comme ça, tu reçois une parole. Et c'est peut-être une petite parole, c'est pas un enseignement hyper profond. Une parole, cette parole-là te fortifie et te porte. Et tu te dis, là, je suis dans l'attente parce que Dieu m'a parlé et j'ai reçu une parole spécifique. Et s'affermir, c'est aussi même dans nos émotions. Dans le C'est mon histoire, on va en en parler. Mm-hmm. On peut vraiment avoir des émotions aussi qui accompagnent nos circonstances, des émotions de dépression, des émotions de découragement, des émotions de d'affaissement, de vraiment de se laisser aller, puis de se dire le train, j'ai manqué le train, c'est passé pour tout le monde et pas pour moi. Et là, on dit, attends-toi des surprises du Seigneur, affermis-toi même dans tes émotions. Refuse des émotions qui vont t'amener à pleurer, qui vont t'amener à te décourager, mais affermis-toi aussi par là, en écoutant même de la louange. Des fois, tu vis un combat, ben, tu mets une chanson qui dit que mon Dieu fait des choses extraordinaires, mon Dieu est un vainqueur. Et ça te fortifie, en fait. Et tu sors de ton temps de louange, de ton temps d'adoration, changé, en fait.
L'espérance, je n'ai parlé, et Nadine aussi, c'est une bonne chose. C'est comme je dis, la foi, c'est encore plus haut, mais c'est un ingrédient. Mm-hmm. Mais le problème qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que les gens sont désespérés. Mm-hmm. Ils n'ont même plus d'espérance.
Mm-hmm.
Ouais. C'est fini.
Ouais.
Le peuple d'Israël, devant l'océan, Pharaon arrive, désespoir. Mm-hmm. Tu n'as même plus une espérance que tu vas t'en sortir, mais... Moïse a dit, m'enlever mon bâton et Dieu va agir.
Amen.
Et là, ça change tout.
Ouais.
Et ça, c'est quelqu'un qui a apporté un souffle frais. Sa foi a fortifié un peuple tout entier parce qu'ils ont vu le miracle.
Ouais.
Après ça, ils ont murmuré pareil. Mais l'espérance dans Moïse était là et même il était au-delà de ça. Il a dit, non, Dieu va le faire. Mais là, aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui sont dans le désespoir.
Ouais.
Et ça, c'est une place terrible à se retrouver.
Oui.
On a tous été là, nos enfants, nous-mêmes, notre vie, notre couple, peu importe. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. Comment est-ce que j'ai plus d'espoir? C'est fini. Ça, c'est faux. Ça, c'est un mensonge de l'enfer.
Oui.
C'est diabolique. C'est la parole de Dieu renverse cette mentalité-là dans le fait de dire, avec Dieu, toutes choses sont possibles.
Oui.
Ça renverse toute pensée de désespoir. Et là, soudainement... T'as de l'oxygène. Et tu peux rentrer dans cette atmosphère de foi. Mais ouais, c'est mon histoire, va être une bénédiction.
Et c'est le mot-clé que tu viens de dire, atmosphère de foi. Et je veux aussi inviter les gens à justement établir dans leur maison une atmosphère de foi, établir dans leur pensée une atmosphère de foi, parce que c'est ça qui va faire toute la différence également. Lorsqu'on se dit qu'on est dans l'attente des surprises du Seigneur, mais il y a quand même une attente.
Ouais.
L'attente, ça peut être, ça dépend des gens, ça dépend des circonstances. Mais vraiment d'avoir une atmosphère, et une atmosphère, ça se crée et ça se maintient également. Et ça, c'est hyper important aussi de le mettre en application.
Amen, amen. Et avant de passer au témoignage, un point que je voulais aussi rajouter, que j'avais à cœur de rajouter, c'est que pour certaines personnes, ça va aussi demander de l'obéissance. Parce que oui, il y a la foi, il y a l'espérance, mais des fois, on sait en fait qu'on doit poser des actions, on sait qu'on doit faire certaines choses, peut-être renoncer à certaines choses ou prendre des décisions qui vont influencer notre vie pour que Dieu puisse intervenir. Il y a un couloir en fait que Dieu a préparé, le couloir de son intervention, mais si on est à côté de ce couloir parce qu'on refuse d'obéir, refuse de faire ce qu'il nous demande de faire, on préfère se heurter toujours au même mur. Donc parfois, ça va demander de prendre un pas d'obéissance et de dire « Seigneur, je me soumets à toi et je m'attends à toi parce que je suis au pied du mur, mais tu m'as demandé de faire ça, je vais le faire, même si ça me paraît complètement fou, impossible, je vais le faire et je m'attends à ce que tu vas intervenir parce que je marche dans ton plan, je marche dans l'obéissance.
Voilà. » Amen.
Et on va voir que Lisa, elle a pris une décision de suivre le Seigneur qui a changé radicalement sa vie. Et oui, je pense qu'elle a été étonnée, surprise et tous les autres adjectifs qu'on pourrait utiliser parce que Dieu a transformé radicalement sa vie. Je vous laisse découvrir son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». On se retrouve pour la rubrique témoignage. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi une sœur, Lisa. Hello Lisa, ça va?
Ça va bien et toi, Evelyne?
Ça va très très bien, je te remercie. Je suis super contente de t'avoir sur le plateau de C'est mon histoire. Et je vais très vite faire un petit lien avec le C'est mon histoire qui a été diffusé la semaine dernière, celui de Jonathan Bouchard, qui est ton mari.
Tout à fait.
Et on va comprendre en fait comment Dieu vous a mis ensemble, parce que de prime abord, il n'y avait aucune chance que vous puissiez vous connaître.
Ça, c'est vrai.
Et c'est lui qui t'a amené au Seigneur, c'est lui qui t'a parlé du Seigneur pour la première fois. Et on va découvrir ton histoire aujourd'hui, comment d'une enfance vraiment dans un milieu, dans une famille vraiment athée, qui ne croyait pas en Dieu, eh bien tu es devenue aujourd'hui cette jeune femme pleine de vie, qui sert le Seigneur, remplie de l'amour du Seigneur. Et c'est ça, comme je le dis, t'es née dans une famille où on croyait pas forcément en Dieu, vraiment. On t'a un petit peu enseigné les petites bases, mais ça s'arrête
là. Catholique de tradition, mais pas pratiquant du tout, là. comme je te disais, il y avait aucune... Dans mon enfance, jamais que j'ai entendu le mot Dieu ou Jésus ou quoi que ce soit. On allait à la messe à Noël, peut-être tous les ans ou presque, mais j'ai des vagues souvenirs, là. Donc, c'est ça, j'ai grandi vraiment comme ça. Je pense pas avoir croisé des chrétiens. En tout cas, si j'en ai croisé, c'était pas écrit dans leur front, naturellement. Mm-hmm. Puis, ils n'ont pas changé ma vie.
C'est donc, ça.
c'est tant pis pour eux, mais... donc, c'est ça, j'ai grandi comme ça. Puis, à un moment donné, vers l'âge de 12 ans environ, mm-hmm. après le primaire, juste avant le secondaire, j'ai rencontré... j'avais une bonne amie à moi, mais après, tout de suite, elle a tombé dans la drogue et dans l'alcool et tout. Mais moi, j'étais très, très proche d'elle. Donc, je l'ai suivie parce que j'étais influençable. Et donc, c'est ça, j'ai commencé là-dedans un peu. Puis, j'ai comme tombé en amour avec un garçon de cet âge-là. Puis c'était comme si c'était un dieu, là. Vraiment, je le vénérais. C'est incroyable. Je dormais plus, là. Vraiment, je le voyais dans ma soupe. Mais là, à un moment donné, il me dit qu'il m'aime et tout ça. Moi, je suis aux anges.
Ben oui.
Finalement, peut-être un mois après, il me laisse tomber pour une autre fille. C'était vraiment ridicule. Moi, j'avais tout mis mon espoir un peu là-dedans. Même si on le sait qu'à cet âge-là, c'est pratiquement impossible. Ça se peut que ça dure longtemps, mais bref.
T'étais innocente.
J'étais très innocente. Je sortais du primaire et tout d'un coup, la vie d'adulte, ça m'a vraiment donné une claque dans le visage. Ouais. Je me suis dit, aïe, c'est ça l'amour, j'en veux pas. Mm-hmm. C'est ridicule. Puis là, j'ai tombé dans les pensées noires. Je me mutilais légèrement, mais je me mutilais. J'étais vraiment désespérée, là, au fond de moi. Waouh, j'allais à l'école, j'étais malheureuse, là. En dedans de moi, j'avais juste le goût de pleurer, j'avais le goût de m'enfuir à l'autre bout du monde. En plus que je voyais sa copine dans la même école que moi, en tout cas. Donc, ça a commencé comme ça, je te dirais, pendant plusieurs années. Mm-hmm. L'entourage autour de moi, c'était des gens comme ça, qui fumaient, qui buvaient. Donc, je tombais là-dedans et tout ça.
C'est ça.
J'étais influençable, c'est ça.
Assez sombre.
Assez sombre. Tu sais, l'adolescence, mais tu sais, on n'est pas obligé de vivre ça non plus dans l'adolescence, naturellement. Même que moi, mes parents, ils en revenaient pas parce que ma sœur était plus vieille que moi, puis elle avait jamais fait ça. Jamais, jamais. Moi, à 13 ans, j'avais pris vraiment beaucoup trop d'alcool, puis ils m'avaient ramassée, là. J'étais dans l'incapacité de marcher, là, vraiment. Donc, c'était vraiment intense. Mes parents étaient dépourvus, là, d'aide. Ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Vraiment une adolescence difficile. Mm-hmm. Je m'étais percé le nez tout seul, le nombril. Ah, vraiment, là, le film 13 ans, si vous l'avez vu, c'était quasiment ma vie, là.
T'étais malheureuse?
J'étais malheureuse, mais je parlais à personne. Mm-hmm. J'aurais dû parler à psychologue ou peu importe. Même que j'ai déjà été consultée psychologue à l'école, mais ça ne m'aidait en rien. Là, mm-hmm. Juste d'être positif, nanana, mais ça ne change pas la vie.
Non, c'est ça.
J'avais besoin de délivrance, veux pas. C'était tellement des oppressions sur moi, ça l'empirait, veux
exact. Pas. Exact. Tu te posais des questions aussi, tu me disais qu'à l'âge de 10 ans, tu t'es posé des questions par rapport à la mort, par rapport au sens de la vie.
Exactement. Je me souviens comme si c'était hier, en fait. J'étais dans ma chambre, je me suis couchée dans mon lit. Puis là, j'ai eu vraiment une vision de l'univers, de vraiment... Là, j'ai dit... J'ai des frissons encore à chaque fois que j'y pense. Je me suis dit, c'est quoi la vie? Est-ce qu'on est? Est-ce qu'on travaille? On meurt? C'est tout? Ça se peut pas. Là, j'ai vraiment eu une crise d'angoisse. Là, j'avais de la misère à respirer. À partir de ce moment-là, j'ai eu tellement peur de mourir. C'était incroyable. J'ai dit, je ne veux plus jamais y penser. Puis là, je n'en ai pas parlé à personne. Naturellement, j'étais quand même assez renfermée. Puis j'ai essayé de digérer ça, mais ça m'a vraiment perturbée. Je te dirais vraiment. Donc après, là, j'ai dit, ben là, il n'y a rien qui existe. Je suis athée. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, athée, mais...
Tu t'es affirmée athée à ce moment-là.
J'ai dit, je suis athée à partir d'aujourd'hui. Mais ça m'a vraiment fait peur, vraiment.
C'est ça. Tu as essayé de te rassurer en pensant que rien n'existait, mais finalement, ça t'angoissait encore plus.
Oui, moi, j'aurais voulu avoir une réponse à cette question-là, mais personne n'était là dans ce moment de ma vie pour me l'expliquer.
Exact. Et finalement, c'est ça, il y a eu cette peine de cœur à l'adolescence qui a ouvert une porte, vraiment une brèche dans ton cœur pour tomber un peu dans une période sombre, l'alcool, etc. Ensuite, tu t'es mis beaucoup dans la danse, tu pratiquais beaucoup de danse, qui t'a un petit peu ramené sur un chemin un petit peu plus paisible. Mais malgré tout, tu avais toujours vraiment des pensées suicidaires, des pensées très, très sombres.
Des fois, ça allait bien, naturellement, j'avais un peu de joie à faire ça parce que c'était comme, me vanter, mais les gens, ils m'aimaient beaucoup en tant que professeur. Donc, pour moi, c'était d'être en avant, d'être vu par les gens, ça me nourrissait. Mais pourtant, c'est pas sain dans un sens de faire ça pour le regard des autres. J'aimais ça quand même parce que ça me mettait en forme et je mettais en forme les gens. De nature, on le sait que le Seigneur nous donne des dons sans me trouver au-delà de mes compétences, juste d'aider les gens dans ce qu'ils ont besoin. Moi, j'aimais ça, entraîner les gens et tout ça. Mais je veux pas, la vie continue. Hein. Tu sais, dans les périodes difficiles, des séparations, des choses comme ça, je me retrouvais toujours seule. Je me disais, c'est quoi la vie? Est-ce que je vais toujours faire ça toute ma vie, d'être ballottée d'un bord et l'autre, une relation après l'autre? Je savais pas où est-ce que je m'enlignais.
Mm-hmm. Et un jour, tu es allée, tu as commencé un nouveau travail, tu es allée travailler dans un restaurant. Exact. Et c'est le restaurant où Jonathan, justement, travaillait. Oui. Quand il t'a vu, le Saint-Esprit lui a dit clairement que tu avais des pensées suicidaires, que tu étais une personne suicidaire. Mais il lui a aussi dit, lui-même s'est dit, là, c'est pas Dieu qui lui a parlé, mais lui-même s'est dit, waouh, j'aimerais vraiment épouser une femme comme ça si elle était chrétienne. Mais il savait qu'à ce moment-là, tu connaissais pas le Seigneur. Et vous avez travaillé ensemble.
Mm-hmm. Ouais, exactement. J'ai commencé à travailler là. Les serveuses et les gens qui travaillaient me mettaient en garde un peu contre lui. Il l'aimait beaucoup quand même. Je veux dire, il n'était pas tout contre lui, mais il me disait, tu feras attention, il est spécial, il est vraiment, tu sais, freak, là, Jesus freak, là, en français, c'est comme tellement intense sur Jésus. Il prie, il prêche la parole, il guérit les gens. Mais tu sais, c'était quand même intriguant. Moi, j'étais un peu sceptique, mais c'était intriguant parce que je voyais rien de négatif en lui, là, dans le sens que c'était un modèle dans tout, là, comme la patience, la bonté, tous les fruits de l'esprit. Bon, il l'avait dans la restauration, qui est un métier assez ingrat. Donc, ça me travaillait. Puis, à un moment donné, plusieurs mois après, là, j'ai vécu une séparation encore. Et bon, je me retrouvais à l'âge de 25 ans. Je me dis, c'est quoi la vie vraiment? Là? Je suis tannée de vivre ça. Puis, la voix vraiment forte en dedans me disait, là, prends ton auto, puis finis-en. Là. Puis là, ça me tourmentait. Je buvais une bière, une autre, let's go. Ça me tourmentait vraiment. J'étais seule chez moi, je me souviens. Là. Puis, à un moment donné, il y a une petite voix douce qui m'a dit, elle m'a dit, écris à Jonathan. Là, j'ai dit, je veux pas qu'il connaisse ma vie. Mm. Moi, j'avais de l'air heureuse parce que j'ai un sourire, je travaillais dans le public, je faisais des efforts et tout. Mais ça me lâchait pas. Écris à Jonathan, écris à Jonathan. Donc, j'ai dit, OK, je vais le trouver. Je l'ai trouvé sur Facebook, je lui ai écrit. J'ai dit, je sais même pas pourquoi je t'écris. Est-ce que tu peux m'aider? Je vois tout noir. Et là, merci Seigneur qui se couche tard parce qu'il m'a, il m'a répondu assez tard quand il était peut-être 11h minuit, peu importe. Il m'a répondu un grand texte, pas juste « ça va bien aller ». Il m'a répondu ce que je m'attendais un peu, mais en même temps, c'était quelque chose que j'avais jamais entendu. Comme quoi, qu'est-ce que je vivais, c'était dans le spirituel, c'était des attaques, bon, des ténèbres et tout ça, qu'il pouvait prier pour moi, j'allais ressentir un bien-être, mais que en bout de fil, ça durerait pas si je donnais pas ma vie au Seigneur, que, bon, la vie continuait, on est dans un monde déchu, donc si t'es pas au Seigneur, tu vis des tourments et tout ça.
Tu t'es dit quoi quand tu t'as écrit ça?
Ça avait vraiment beaucoup de sens. C'était comme une lumière. Quand je lisais le texte, c'était vraiment, pour une fois de ma vie, j'ai dit, c'est ça la vérité. Dans le fond, Colin, ça fait 25 ans que je la cherche, la vérité était là.
C'était évident pour toi
que c'était vrai. Pas plus compliqué que ça. Vraiment, il m'a partagé ses témoignages de vie, celui de son papa qui avait été guéri surnaturellement, etc. C'était merveilleux. Son demi-frère également, qui a un témoignage extraordinaire. Oui. Donc, ça m'a vraiment touchée. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si les ténèbres sont partis. Là, je me suis sentie bien. J'ai vraiment ressenti la présence du Seigneur. Quand j'écoutais des témoignages, ça me brûlait, mais c'était pas négatif. C'était vraiment positif. Je me sentais légère. Et là, à un moment donné, je me suis repentie dans ma cuisine. J'étais toute seule, à voix haute. Je savais pas comment faire. J'avais jamais prié de ma vie, là, naturellement. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu existes. Je sais que je suis dans le péché. Je suis dans le trouble, en bon français. J'ai besoin de toi. Pardonne-moi. Je l'ai répété pour être certaine qu'il m'a entendue. Puis là, je ne sentais rien de particulier. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée et j'étais vraiment transformée. Le cœur complètement changé. Heureuse dans tous les petits détails de la vie. Puis là, j'avais soif d'en apprendre plus, naturellement. Puis là, je savais que j'étais sale de péché. Il fallait que je me fasse baptiser pour enlever les péchés. Puis j'avais hâte, j'avais dit à Jonathan, est-ce qu'on peut faire ça bientôt? Là, il m'avait trouvé une place avec une autre sœur 2 semaines après. Puis je me suis fait baptiser. Le lendemain, j'ai vécu une délivrance dans une soirée de prière. C'était vraiment puissant. J'ai appris comme ça à prier à travers les gens parce que je ne connaissais pas du tout, du tout. En lisant la Bible, je me souviens même que j'avais été à la bibliothèque louer un livre qui est Jésus pour les nuls. Jonathan a trouvé ça vraiment drôle. J'avais envoyé une photo, là, il était là, ouais, c'est un bon début. C'est vraiment, vraiment drôle.
Dans ton caractère aussi, mm-hmm. tu as été transformée parce que tu as une période plutôt assez blessante, assez piquante.
Vraiment. Avec ce que j'avais vécu, j'étais très, très jalouse avec les relations d'hommes et tout ça. J'étais très jalouse, mais blessante, mes paroles, impatiente, vraiment. Je réalise, en m'en venant aujourd'hui, j'ai réalisé comme quoi que c'était terminé. C'est fini, cette vie-là. Puis c'est merveilleux, vraiment. J'aurais pas pu demander mieux. Puis c'est ça. C'est vraiment une ancienne vie. C'est ce que je te disais, on parlait tout à l'heure. C'est comme si c'était plus nous. C'est l'ancienne personne.
Exactement.
Donc, c'est ça.
Jonathan t'a accompagné dans ta vie chrétienne, dans ta démarche chrétienne. Il t'a formé dans les débuts. Et puis, petit à petit, vous êtes tombés
amoureux. Oui, exact. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On a des sentiments. Je ne savais pas du tout quoi faire, mais lui, dans sa sagesse et dans son expérience, il m'a dit, on va donner tout ça au Seigneur, il va nous guider. Puis moi, j'étais à l'extérieur en voyage pendant 5 semaines. J'avais dit au Seigneur, je te donne tout. Puis même Jonathan, j'avais de la misère, j'ai lâché prise. Puis à partir de ce moment-là, ça a été glorieux. Vraiment, j'ai vécu plein de guérisons, des miracles, des visions. C'est comme si ma vie, elle avait vraiment... C'est quand on bloque des choses, c'est nous-mêmes qui bloquent, alors que Dieu nous a bénis. Puis plusieurs mois après, il m'a demandé en mariage. Et maintenant, on a une petite fille de 1 an et demi. Ça va vraiment vite, la vie. Alors, c'est ça.
Exactement, vraiment. Dieu a vraiment posé sa main sur ta vie, sur votre vie à tous les deux. Et aujourd'hui, tu vas dans les rues, toi aussi, avec Jonathan, prêcher l'évangile, prier pour les malades et puis aller être une lumière dans ce monde, comme le dit la parole.
Exactement.
Merci beaucoup, Lisa, d'être venue partager ton témoignage.
Ça me fait plaisir.
Un très beau témoignage qui nous montre que Dieu peut vraiment toucher n'importe qui, n'importe quand. Et vous, à la maison, vous avez peut-être des personnes autour de vous, vous savez qu'elles ont besoin du Seigneur. Je veux vous inviter à être ces lumières dans leur vie, à les briller, à les encourager, à les fortifier, à les amener la foi là où il n'y a pas encore la foi, l'espérance là où il n'y a pas encore l'espérance, et prier que le Seigneur puisse faire multiplier les fruits dans la vie de ces personnes. Vous êtes des instruments de paix et de lumière. Passez un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.